le midi.
FM 93, ça me parle.
Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on a Jupiter and Mars.
C'est pas Frank Sinatra qui veut amener le Canada sur la Lune.
Fly me to the moon.
Oui, monsieur.
And
c'est,
let me swing among those stars.
C'est ça, c'est bon, ça.
You are all I long for.
Tu connais-tu par cœur?
Oui.
Veux-tu la chanter?
All I worship and I adore.
C'est tellement bon du Sinatra. Mais c'est pas Sinatra qui veut nous amener sur la Lune. C'est la NASA, plutôt, qui aimerait entraîner le Canada dans une nouvelle aventure lunaire. Jim Bridenstine, qui est directeur de la NASA, est passé à Ottawa puis il a dit qu'il y aurait un programme lunaire qui permettrait éventuellement d'aller vers Mars par la suite. Et il a dit, on aimerait que les astronautes canadiens se joignent à nous. On aimerait même qu'il y ait d'autres drapeaux que le drapeau américain qui soit planté sur la Lune.
Mais tu dis le mot astronaute, c'est pas juste astronaute. Là. Ils veulent que le Canada se joigne à la recherche, au développement, à la fabrication, à tout ça. Oublie pas que le Canada, quand le module lunaire à Aluni, en 1969, là, les pattes de ça avaient été fabriquées ici au Canada, je pense même ici au Québec. Okay. Oublie pas le bras canadien, cette espèce de bras mécanique qui servait à faire des travaux à partir de des navettes spatiales. Alors, ce que dit le patron de la NASA, c'est on a besoin de vous encore parce que là, on a un gros projet, c'est qu'on veut construire une autre station spatiale qui sera en orbite autour de la Lune.
Oui.
Et à partir de cela, songer par la suite à aller construire une sorte de colonie humaine sur la Lune à partir de laquelle on pourrait rêver d'aller sur la planète Mars.
Ça s'appelle le Lunar Gateway. Ce serait dès 2021 qu'on voudrait l'envoyer. Et on parle souvent de développement durable. Dans ce cas-ci, on parle d'architecture lunaire durable. Donc, dans une autre forme de développement durable. Pour voir plus clair un peu là-dedans et voir les possibilités pour le Canada de s'impliquer dans ce type de mission, on va aller parler au spécialiste en mission spatiale, Benoît Laplante. Bonjour, Monsieur Laplante.
Bonjour, messieurs.
D'abord, qu'est-ce qui fait en sorte que la NASA se tourne vers le Canada pour son expertise dans ce domaine-là?
Ben, je vous dirais que, comme Luc disait tantôt, le Canada a toujours été sur la Lune. Les pattes du module lunaire ont été fabriquées à Longueuil. Je me rappelle bien, c'était Héroux qui les avait fabriquées à ce moment-là. Oui. Donc, on a toujours été là. Puis je dois vous dire aussi qu'il y a beaucoup de Canadiens qui ont travaillé dans le programme spatial Apollo avec l'annulation du programme Avro, le fameux avion canadien là, qui était fantastique, qui a été annulé dans les années 2000, en 1959. Tous les ingénieurs en aéronautique qui étaient là, il y en a une méchante groupe qui sont partis pour Houston pour aider justement à faire le fine-tuning là, du programme Apollo. Donc, le Canada a toujours été présent. Le Canada était le troisième pays à envoyer quelque chose en orbite avec le satellite Alouette 1 en 1962. Donc, c'est un peu naturel, puis on est leurs voisins. Puis, il faut pas se le cacher, ils ont besoin des partners, mais ils ont besoin d'argent un peu aussi. Donc,
on a une agence spatiale ici qui est pleinement opérationnelle.
Exactement. Donc, ça fait du sens. Moi, ce que j'espère, c'est oui, le Canada, j'espère que le Canada va embarquer là-dedans à plein pied, mais j'espère aussi que M. Bernstein va aller faire un tour, aller voir les Chinois, va aller voir les Russes aussi, parce que ça serait pas mal plus intéressant d'avoir les meilleurs de tout le monde, de toute la planète, pour faire quelque chose comme ça, là, que de le faire chacun de son côté. Là.
Pensez-vous qu'il y a une volonté, présentement, pas juste au Canada, le meilleur dans le monde, de se relancer dans la conquête spatiale?
Je vous dirais que ça prendrait juste quelqu'un. Ça prendrait que les Chinois décident d'aller bâtir une base là-haut, puis ça relancerait la course vers les étoiles comme on a vu dans les années 60 avec les Soviétiques à ce moment-là. La volonté est là. Je pense que tant du côté américain que du côté planétaire, on a besoin d'un projet rassembleur, je crois. Oui, l'environnement en est un gros, là, mais les gens n'ont pas l'air à comprendre trop ce qui se passe ou ils veulent pas comprendre. Mais je pense que ça pourrait en être un qui va rassembler tout le monde. Et puis, j'espère là, que ça va avoir le feu vert pour aider. Mais... parce qu'on va envoyer des gens en orbite puis des gens sur la planète, peut-être éventuellement sur Mars, mais ça va amener énormément de développement de technologies qui vont nous retomber dans notre vie de tous les jours sur la Terre. Donc, pour j'espère que ça va être bon, ça.
En êtes-vous convaincu de ça? Parce que ça coûte les yeux de la tête. Là. On va en retirer quoi exactement de ces dépenses-là?
Ben, si vous regardez dans notre vie de tous les jours, pratiquement, je vous dirais, là, à chaque 10 minutes, vous touchez à quoi qui est issu du programme spatial. Peut-être pas nécessairement qui a été développé tant que tel par le programme, mais qui vient de là. Connaissez sûrement quelqu'un dans votre famille qui a passé un scanner dans sa vie pour peu importe la raison, mais ça a été développé dans le temps des modules d'Apollo pour faire des tests sur les réservoirs, à savoir s'il y avait des fuites, des cracks, des choses comme ça. Donc, c'en est un, là, mais il y en a plusieurs choses comme ça qui ont été développées, je suis d'accord avec vous, avec des grands coûts, mais qui viennent aujourd'hui aider tout le monde sur la planète penser à nos pompiers, penser à plein de gens là, qui ont des uniformes ou des équipements qui ont été développés, basés sur des choses qui ont été développées pour le programme spatial.
Fait que,
il y a de l'argent mis là-dedans, mais c'est bon pour tout le monde, je pense.
Y a-t-il encore une ferveur? Parce qu'évidemment, dans les années 60, le programme Apollo, puis ensuite le programme des navettes spatiales dans les années 70-80, c'était quelque chose qui, au-delà de la compétition avec l'URSS, c'était aussi un désir de découvrir l'univers. Est-ce qu'il est encore là?
Je vous dirais que je pense que c'est encore plus vrai aujourd'hui que ce l'était. Apollo, c'était vraiment... on va sur la Lune. On voulait pas découvrir l'univers. On voulait être les premiers à aller sur la Lune parce que le compétiteur, les Soviétiques, disaient qu'on voulait faire la même chose. On s'est lancé un peu plus vers l'univers, je vous dirais, avec les grands télescopes. On parle de Kepler, on parle de Hubble. C'est des choses comme ça qui nous aident un peu. Là, on va peut-être envoyer un jour là, James Webb qui retarde à chaque année, mais je pense que la volonté d'aller plus loin, on envoyait des sondes sur des comètes, ouais, sur des astéroïdes. Je pense que là, on commence à regarder un peu plus loin que juste notre voisin d'à côté qui est la Lune. Là, je pense qu'on a finalement là, ce désir-là. Maintenant, est-ce qu'on peut y aller? On parle d'aller sur Mars avant 25 ans. Moi, personnellement, je vous dirais que c'est pas avant 25 ans minimum, parce qu'on sait que on va pas loin encore. Là. L'humain il va seulement qu'à la Station spatiale internationale avec les fameuses fusées russes. Puis c'est seulement 400 kilomètres. Retourner sur la Lune, on parle de 363 000 kilomètres. Et aller sur Mars, on parle de 54 millions de kilomètres quand Mars est à son point le plus près de la Terre. Donc, je pense qu'on n'est pas rendu là, mais le goût de la découverte de l'univers, de voir un peu d'où on vient et qu'est-ce qu'il y a là-haut, je pense que ça devient de plus en plus présent, plus qu'une compétition contre l'autre à savoir qui va être le premier.
Mais ça va devenir une nouvelle génération d'astronautes, parce que ce que vous dites, là, c'est pour aller sur Mars, là, c'est des astronautes qui vont être absents de chez eux pendant 2-3 ans.
Minimum 2 ans, parce que ça prend... En tout cas, avec les technologies de propulsion d'aujourd'hui, c'est un minimum 6 mois, 8 mois à s'y rendre en s'assurant qu'on arrive au point le plus près. Puis il faut attendre à peu près 1 an avant que Mars soit encore une fois dans la bonne place pour partir, pour que la Terre soit à son point le plus près. Donc, vous avez raison, là, quand les astronautes vont partir, c'est un minimum 2 ans qu'ils vont partir. Donc, ça, le gros problème, le gros défi qu'on a, c'est comment est-ce qu'on les tient en forme, parce que les radiations vont être incroyables là-haut. Et puis la nourriture. On n'aura pas la chance d'avoir des fusées Progress ou des fusées de SpaceX qui vont venir faire du ravitaillement en chemin. Est-ce qu'on va en envoyer à l'avance qui vont être en orbite en quelque part, mais il n'y a pas d'orbite, donc ça va être difficile. Donc, faut vraiment avoir la Station spatiale internationale aujourd'hui, développer comment on peut faire pousser des choses comme bon, on a fait de la salade et des légumes comme ça, mais ça va prendre beaucoup plus que ça. Comment est-ce qu'on va faire pour recycler l'eau de façon permanente? Parce qu'aujourd'hui, on la recycle, mais il arrive un certain point où on peut plus la recycler, puis on s'en sert comme système de refroidissement et on doit amener de l'eau avec les fusées de ravitaillement. Donc, il y a beaucoup de côté technologie qui doit être fait. Puis, bien entendu, il y a les fusées. Là. Comme je vous disais tantôt, on envoie seulement que des astronautes en orbite avec à bord des bonnes vieilles Soyouz qui datent des années 60. Donc, on a encore beaucoup de chemin à faire là-dedans.
Mais sur le plan technologique, en termes de propulsion, j'imagine qu'on a fait du chemin. En termes d'ordinateur de bord aussi, si on compare ce qu'il y avait à bord des Apollo en les années 60, puis aujourd'hui, on ne doit pas être à la même place du tout.
Système de navigation, là, on est vraiment pas sur la même planète, là. Mais du côté propulsion, je vais vous dire que vous regardez SpaceX, vous regardez les Soyouz, c'est encore une fois kérosène, oxygène, hydrogène liquide, puis c'est pas mal la même chose qu'on avait avant. Donc, ce qui va nous aider, c'est vraiment sortir de la gravité terrestre, de mettre quelque chose en orbite ou aller sur la Lune, et puis de partir de là. Donc, on va avoir besoin de beaucoup moins de carburant pour s'éloigner et puis prendre de la vitesse, là. Mais on n'a pas encore développé. On parlait des moteurs à pulsation, des moteurs à... On est loin encore de là, mais on travaille là-dessus. Mais c'est pas demain la veille qu'on va voir des astronautes partir avec système Star Trek ou quelque chose comme ça. Là.
Mais entre-temps, on a un des nôtres qui va partir là, bientôt.
Exactement. Il y a David Saint-Jean qui part normalement le 3 décembre. Sa mission était prévue pour le 20, mais avec le petit avarie de Soyouz il n'y a pas longtemps, on a rapproché sa mission au 3 décembre. Et sa mission est vraiment dépendante des trois lancements de Soyouz qu'on avait à faire avant. Jusqu'à date, on en a fait 2 pour mettre des satellites en orbite. On en a un demain qui va être lancé avec un vaisseau Progress pour amener du ravitaillement à la Station spatiale. Et si tout va bien, par la suite, le 3 décembre, eh bien notre Canadien David Saint-Jacques va s'envoler vers la Station spatiale pour une période de 5 à 6 mois. Là.
Pour des astronautes, ça doit être un rêve hallucinant de retourner sur la Lune ou autour de la Lune, de s'éloigner à ce point-là de la Terre.
Je vous dirais que pour les astronautes, la chose la plus intéressante, c'est de voir notre... C'est fou à dire, c'est de quitter la planète. On veut quitter la planète, là, mais c'est de la regarder par la suite. Vous posez la question à tous ceux qui ont eu la chance d'aller en orbite ou aller dans l'espace, de voir notre planète, c'est ce qui les fascine. Je me rappelle toujours Apollo 8, quand c'était la première fois qu'on prenait des photos de la Terre, à partir de la Lune, pour voir notre boule bleue. Puis tout le monde qui va en orbite passe leur temps libre à regarder notre planète parce que c'est un spectacle fantastique. Donc, oui, on va aller en orbite, puis je vous dirais qu'avoir la chance, j'aimerais bien ça y aller, là, mais c'est pas mon cas. Mais pour ceux qui sont déjà allés, puis je vous dirais que ceux qui vont retourner dans les années à venir, ça va être une nouvelle génération, comme lui disait tantôt. On a David Saint-Jean qui est là depuis près de 10 ans, et puis on en a des nouveaux là qui viennent d'arriver, les Canadiens, qui vont partir en orbite peut-être dans 10, 15 ans aussi, parce que le Canada, en donnant pas beaucoup d'argent au programme de la station spatiale, bon, on n'a pas la chance d'envoyer les astronautes trop souvent. Donc, c'est des gens qui vont être très patients, mais c'est une nouvelle génération qui vont pouvoir découvrir notre belle planète de là-haut.
Ben, moi, quand j'étais tout jeune, c'était l'époque du programme Apollo, puis on pouvait pas rêver d'être astronautes, nous, les Canadiens.
Ah, absolument. Puis on est probablement de la même âge, puis moi aussi, c'était la première des choses, un Américain. On n'était pas Américain, puis il y en a 12 qui ont marché sur la Lune. Donc, mais moi, je me rappelle très bien de faire des fusées avec mes Legos dans la cour. Faut voir que les fusées étaient carrées à ce moment-là, parce que les Legos étaient seulement carrés, mais regarder Apollo 11, rester le soir tard, regarder Armstrong marcher sur la Lune en noir et blanc sur notre petite télévision, Apollo 13, des choses que je me rappelle comme si c'était hier.
C'était une époque grandiose, hein?
Ah, c'était incroyable. On est chanceux d'avoir vécu ça parce que c'était incroyable. Est-ce que peut-être que Mars va ramener une ferveur aussi grande qu'on a vécu avec la Lune, mais c'était fantastique. On est chanceux d'avoir vécu ça.
Et on sait qu'il n'y a pas de petit bonhomme vert sur Mars, finalement.
Ouais, c'est non, il n'y a pas de sélénite sur Mars, comme on dit. Là.
Benoît Laplante, merci d'avoir été avec
merci.
Nous.
Merci.
Ah, merci, messieurs. À la prochaine.
Benoît Laplante est spécialiste en mission spatiale et nous parlait de cette demande de la NASA au Canada d'aider pour retourner sur la Lune. En tout cas, créer une espèce de station spatiale autour de la Lune qui pourrait devenir le pied à terre qui nous propulserait vers Mars plus tard. Mais le point que vous amenez est bon. Puis tu sais, toi, tu as vécu ça, le programme Apollo. On s'entend que moi, à 30 ans, je suis très loin de cette génération-là. Mais tu sais, toi, à cette époque-là, tu devais t'imaginer, quand tu voyais les gens dire « on s'en va vers la Lune », après ça, tu devais dire « vers l'infini, plus loin encore », là, pour paraphraser des personnages de films.
Toute ma génération, on suivait ça, là, puis on avait tous... là. Je me souviens que mes parents m'avaient abonné à une espèce de périodique qui revenait à tous les 2 mois. Puis là, il fallait coller des images.
Okay.
En même temps que tu collais les images, tu apprenais c'était quoi le module lunaire, puis le ci, puis le ça. Puis on s'offrait ça en cadeau de Noël. Puis tout le monde, quand il y avait les missions d'Apollo, jusqu'à ce qu'il y en ait une qui a été vraiment sur la Lune, celle les missions préparatoires, on suivait ça à la télé, les yeux rivés là-dessus... Écoute, d'abord, il y avait les astronautes eux-mêmes qui nous impressionnaient. Ça prend tout un courage.
Ben oui.
T'as besoin de pas être claustrophobe. Puis à cette époque-là, comme tu le disais tantôt, la technologie était pas ce qu'elle est maintenant, là. Alors, je veux dire, les capacités qu'on a maintenant de tout analyser, puis des capacités informatiques quasi infinies, à cette époque, c'était loin d'être comme ça, là. On se souvient du film sur Apollo 13, là, quand ça a mal tourné. On voit bien comment il était au point de... avec des ficelles, littéralement,
oui.
Des tournevis. Là, c'est ça qu'on était, là, qu'on vivait à cette époque-là. Alors, on admirait beaucoup les John Glenn, puis les Neil Armstrong, puis les Buzz Aldrin. C'était devenu des gens qui faisaient partie de notre univers. C'était un univers qui était... C'était comme la bande dessinée en réel.
Ouais, c'était des super-héros, finalement.
C'était des très grands héros.
C'est
le
ça.
Film Top Gun, je ne sais pas si tu l'as déjà vu,
oui.
faut le voir. Là. C'est un très bon film, d'ailleurs, c'est basé sur un livre de Tom Wolfe.
C'est quoi, une suite, ils font ça maintenant. En 2018, ils font des suites d'excellents films qui sont souvent pas mal moins bonnes que les originaux.
Ah, mais des fois, c'est le contraire. Godfather, le parrain,
oui.
première
oui.
partie, était un chef-d'œuvre. Le deuxième, t'es encore meilleur.
T'as raison, mais c'est très rare, ça. C'est
puis le troisième
rare.
Est...
Quelque part entre les deux.
Il est quelque part entre les deux, ouais.
Absolument. Sur ces commentaires cinématographiques, on prend une pause. Très important.
Ségal la voix, le midi. On revient dans quelques minutes.
FM 93, ça me parle.